Chapitre 3.
D'accord, dis-je en regardant la pendule. Il nous reste une minute avant la sonnerie. Vous savez ce que ça signifie?
C'est l'heure du jeu éclair.
La vie avait étonnamment peu changé depuis l'annonce de l'existence de la ligne de Petrova. La situation était dangereuse, mais elle était devenue la norme. Pendant le Blitz, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Londres vivaient tout à fait normalement, mais gardaient à l'esprit que de temps à autre un immeuble risquait de s'effondrer. Si la situation était désespérée, il fallait bien que quelqu'un continue de livrer le lait. Si la maison de Madame Macready était détruite par les bombardements durant la nuit, eh bien il suffisait de la rayer de la liste des clients à livrer. Nous étions peut-être à la veille de l'apocalypse, causée, pensait-on, par une forme de vie extraterrestre, et j'avais pour mission de sensibiliser les enfants à la science. À quoi bon avoir un monde si on est incapable de le transmettre à la génération suivante? Les enfants étaient sagement assis en face de moi, comme ils se devaient. Le reste de la salle de classe, cependant, ressemblait au labo d'un savant fou. J'avais peaufiné ce décor pendant des années. J'avais une échelle de Jacob dans un coin, débranchée pour que les gamins ne se tuent pas. Le long d'un mur, sur des étagères, étaient alignés des bocaux contenant des morceaux d'animaux dans du formol. Sauf un, où j'avais mis des spaghettis et un œuf dur, mystère qui intriguait énormément les enfants. Suspendu au plafond, ma plus grande fierté. Un énorme mobile représentant le système solaire. Jupiter faisait la taille d'un ballon de basket, tandis que Mercure était aussi petit qu'une bille. Pendant des années, je m'étais construit cette image de prof cool. Les enfants sont plus intelligents que certaines personnes le pensent. Ils savent distinguer le professeur qui s'intéresse à eux de celui qui travaille en pilotage automatique. Bref, c'était l'heure du jeu éclair. J'attrapais sur mon bureau une poignée de balles à grains.
Quel est le véritable nom de l'étoile du Nord?
Polaris,
répondit Jeff.
Correct.
Je lui lançai une balle à grains et n'attendis pas qu'il la rattrape pour poser la question suivante.
Quels sont les trois types de roches?
Ignées, sédentaires et métamorphiques,
s'écria Larry pour le moins excité.
Ah, presque.
Ignées, sédimentaires et métamorphiques,
intervint Abby en ricanant. Abby était une chieuse, mais qu'est-ce qu'elle était maligne.
Oui,
acquiesçai-je en lui lançant une balle.
Quelle onde sent-on en premier pendant un tremblement de terre?
L'onde P,
répondit Abby.
Encore toi?
Je lui lançai une nouvelle balle.
Quelle est la vitesse de la lumière?
3 × 10⁻⁴,
commença Abby.
C'est,
hurla Regina dans le fond. Elle parlait rarement. Cela faisait plaisir de la voir sortir de sa coquille.
C'est malin, mais c'est juste,
gloussai-je en lui lançant une balle.
J'ai répondu en premier,
protesta Abby.
Mais elle a terminé sa réponse avant toi,
dis-je.
Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre?
Alpha du Centaure,
se hâta de répondre Abby.
Faux,
la contrai-je.
Mais c'est vrai.
Non, c'est faux. Quelqu'un d'autre?
Oh,
fit Larry.
C'est le soleil.
Oui,
répondis-je.
La balle est pour Larry. Attention avec tes hypothèses, Abby.
Elle croisa les bras, l'air boudeur.
Qui peut me dire quel est le rayon de la Terre?
Trang leva la main.
6300... Trang,
l'interrompit Abby.
La réponse est Trang.
Celui-ci se figea incrédule.
Quoi?
Demandai-je.
Eh bien oui,
jubila Abby.
Vous avez demandé qui connaissait le rayon de la Terre. C'est Trang qui a répondu, donc j'ai bon.
Une gamine de 13 ans s'était montrée plus futée que moi. Et ce n'était pas la première fois. Je lâchai la balle sur son pupitre au moment où la sonnerie retentissait. Les enfants bondirent de leurs chaises, ramassèrent leurs livres et leurs sacs à dos. Enivré par sa victoire, Abby prit un peu plus de temps que les autres.
N'oubliez pas d'échanger vos balles contre des cadeaux à la fin de la semaine,
m'écriai-je comme il quittait la classe. Bientôt, la salle fut vide,
et seuls les bruits des enfants dans le couloir suggéraient qu'il y avait eu de la vie dans ma classe. Je ramassais leurs devoirs sur mon bureau et les rangeais dans ma sacoche. La sixième période était terminée. Il était temps d'aller boire un café dans la salle des professeurs. Peut-être y corrigerais-je quelques copies avant de rentrer chez moi, le but étant d'éviter le parking pendant que la flotte de mères poules défilerait pour récupérer les enfants. Si l'une d'entre elles me voyait, elle aurait forcément une suggestion ou un reproche à me faire. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'aimer leurs enfants, et Dieu sait que les parents ne s'impliquaient pas suffisamment dans la vie scolaire de leurs rejetons, mais il y avait des limites.
« Rylan Grace ?» demanda une femme.
Je relevai subitement la tête. Je ne l'avais pas entendue arriver. Elle avait l'air d'avoir 45 ans, était vêtue d'un tailleur élégant, elle portait une mallette.
« Oui. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?»«
Je crois, oui. » Elle avait un léger accent, quelque chose d'européen, mais je n'aurais pas su dire quoi.
« Je suis Eva Pratt. J'appartiens à la force opérationnelle Petrova. »
La quoi ?
La force opérationnelle Petrova. C'est une organisation internationale créée pour s'occuper de la ligne de Petrova. Ma mission consiste à trouver une solution. On m'a donné toute latitude pour arriver à un résultat.
On ? Qui ça, on ?
Les États membres des Nations Unies.
Attendez, quoi ? Comment est-ce que...
Vote secret à l'unanimité. C'est compliqué. J'aimerais vous parler de cet article scientifique que vous avez publié.
Un vote secret ? Peu importe, ajoutai-je en secouant la tête. Cela fait bien longtemps que je n'ai rien publié. Ma carrière académique ne s'est pas super bien passée.
Vous êtes professeur, donc toujours dans l'enseignement.
Oui, oui. Je voulais parler de la recherche, des scientifiques, des revues à comité de lecture.
Et des connards qui vous ont fait mettre à la porte de l'université ?
Ajouta-t-elle en haussant un sourcil.
Qui vous ont retiré tous vos financements et se sont arrangés pour que vous ne puissiez plus jamais publier ?
Exactement. Elle sortit un dossier de sa mallette. Elle l'ouvrit et lut la première page.
Une analyse des hypothèses fondées sur l'eau et un recalibrage des attentes des modèles évolutionnistes. C'est bien vous qui avez écrit cet article ?
Me demanda-t-elle en me regardant. « Je suis désolé, mais comment avez-vous... »
« Le titre est nul, mais le contenu très intéressant. »«
Écoutez, je n'allais pas bien quand j'ai écrit ce truc, » me défendis-je en posant ma sacoche sur le bureau. « J'en avais ma claque du monde de la recherche, et cet article était ma manière à moi de tirer ma révérence avec un dernier pied de nez. Je m'épanouis bien plus dans le métier que j'exerce aujourd'hui. »
Vous avez passé des années à combattre l'idée que la vie ne pouvait se passer d'eau liquide,
reprit-elle en feuilletant l'article.
Vous avez même intitulé une partie « La zone boucle d'or, c'est pour les débiles ». Vous traitez des dizaines d'éminents scientifiques de tous les noms et vous tournez en ridicule leur idée d'une fourchette de température obligatoire.
D'accord, mais...
Vous avez un doctorat en biologie moléculaire, non ? La plupart des scientifiques s'accordent sur le fait que l'eau liquide est nécessaire à l'évolution de la vie.
« Ils ont tort, » affirmai-je en croisant les bras. « Il n'y a rien de magique dans l'hydrogène et l'oxygène. Ils sont nécessaires à la vie sur Terre, c'est certain, mais les conditions pourraient être totalement différentes sur une autre planète. La vie n'a besoin que d'une réaction chimique qui produit une copie du catalyseur originel. Pas besoin d'eau pour ça. » Je fermai les paupières, pris une profonde inspiration et expirait longuement. Bref, j'étais en colère et j'ai écrit ce papier. Et puis j'ai obtenu mon certificat de prof de collège et j'ai réellement commencé à profiter de la vie. Je me félicite qu'on ne m'ait pas cru. Je suis bien plus heureux comme ça.
Moi, je vous crois.
Je vous remercie, mais j'ai des copies à corriger. Pourrais-je savoir ce qui vous amène ici ?
J'imagine que vous avez entendu parler de la sonde Arclight et de la ligne de Petrova,
dit-elle en rangeant le dossier dans sa mallette. Je serais un très mauvais professeur de sciences si je n'en avais pas entendu parler.
Croyez-vous que ces points noirs soient vivants ?
Je ne sais pas. Il pourrait s'agir de grains de poussière secoués par des champs magnétiques. On verra ça lorsque la sonde rentrera sur Terre. Ça ne devrait pas tarder, non ? Encore quelques semaines.
Elle rentre le 23,
confirma-t-elle.
Roscosmos la récupérera en orbite terrestre basse grâce à une mission Soyouz dédiée.
Nous saurons donc bientôt la vérité,
l'approuvai-je en hochant la tête.
Les esprits les plus brillants de la planète les examineront et découvriront de quoi il s'agit.
Vous savez qui va s'en charger ?
Vous. C'est vous qui allez vous en charger.
Je clignai des yeux sans comprendre.
Coucou, il y a quelqu'un ?
Demanda-t-elle en agitant la main devant mon visage.
Vous voulez que j'examine ces points ?
Moi ? Absolument.
Le monde vous a confié une mission d'une importance capitale et vous avez besoin d'un professeur de collège pour la remplir.
Oui.
Je tournai les talons et me dirigeai vers le couloir.
Vous mentez ou vous êtes folle, ou les deux.
Bon, je dois vous laisser.
Vous n'avez pas vraiment le choix,
lança-t-elle dans mon dos.
On a toujours le choix,
rétorquai-je en lui faisant au revoir de la main. C'était pourtant faux. Je n'avais pas vraiment le choix. De retour à mon appartement, alors que je m'apprêtais à ouvrir ma porte, quatre hommes en tenue élégante m'entourèrent. Ils me montrèrent leur carte du FBI et m'accompagnèrent jusqu'à l'un des trois SUV noirs garés dans le parking de la résidence. Après un trajet de 20 minutes, durant lequel ils refusèrent de répondre à mes questions et de parler tout simplement, les voitures se garèrent et on m'invita à entrer dans un immeuble de bureaux à l'allure banale. Mes pieds touchèrent à peine le sol, comme ils me conduisirent dans un couloir vide où se succédaient, tous les 10 mètres environ, des portes non marquées. Ils me poussèrent doucement à travers une porte à deux battants dans une grande salle. Au contraire du reste de l'immeuble abandonné, l'espace était plein de meubles et d'appareillages high-tech rutilants. C'était le laboratoire de biologie le mieux équipé que j'ai jamais vu. En son centre se dressait Eva Stratt.
Rebonjour, Dr. Grace. Voici votre nouveau labo.
Les agents du FBI refermèrent les portes, me laissant seul avec la femme. Je me massai les épaules, là où on m'avait maintenu un peu trop fermement.
Donc, quand vous dites que vous avez toute latitude,
commençai-je en regardant la porte par-dessus mon épaule.
J'ai toute latitude, confirma-t-elle.
Vous avez un petit accent.
Vous êtes américaine au moins.
Je suis néerlandaise. J'étais administratrice à l'ESA, mais ça n'a pas d'importance, je suis passée à autre chose. Le temps n'est plus aux comités internationaux à la lenteur d'escargot. Le soleil se meurt. Il nous faut une solution, et c'est mon boulot de la trouver.
Elle prit un tabouret de laboratoire et s'assit.
Ces points noirs sont probablement des formes de vie. Le rythme exponentiel de la baisse de la luminosité du soleil concorde avec l'augmentation exponentielle typique de la population d'une forme de vie.
Vous croyez qu'il mange le soleil ?
Il mange sa production énergétique, en tout cas.
Eh bien, c'est terrifiant.
Que voulez-vous de moi, au juste ?
La sonde Arclight va rapporter des échantillons sur Terre. Certains seront peut-être encore en vie. Je veux que vous les examiniez et en tiriez un maximum d'informations.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais j'imagine qu'il y a des gens plus qualifiés que moi pour le job.
Des scientifiques du monde entier travailleront sur le sujet, mais je veux que vous soyez le premier.
Pourquoi ?
Cette chose vit sur ou près de la surface du soleil. Pas vraiment une forme de vie basée sur l'eau, pas vrai ?
Elle avait raison. L'eau ne peut exister dans ces zones de température. Au-delà de 3000 degrés, les atomes d'hydrogène et d'oxygène ne restent plus liés. Et il règne à la surface du Soleil une température de 5500 degrés.
La biologie spéculative extraterrestre est un champ de recherche restreint. Cela représente quelques 500 chercheurs dans le monde, et tous les gens que j'ai consultés, des professeurs d'Oxford aux chercheurs de l'Université de Tokyo, s'accordent sur le fait que vous auriez pu diriger ces recherches si vous ne vous étiez pas éclipsé subrepticement.
Diantre ! Je suis parti en claquant la porte, et il ne me crache même pas dessus.
Tout le monde comprend la gravité de la situation. Les vieilles querelles doivent être enterrées. En plus, vous aurez l'occasion de prouver à tout le monde que vous aviez raison. La vie n'a pas besoin d'eau. Vous ne pouvez pas manquer cette occasion, si ?
Oui, d'accord, mais
Pas comme ça.
Elle sauta de son tabouret et se dirigea vers la porte.
Vous n'avez pas le choix. Je vous attendrai ici le 23 à 19h. Les échantillons seront arrivés.
Mais ils seront en Russie, non?
J'ai demandé à Roscosmos de poser le Soyouz dans la Saskatchewan. L'aviation royale canadienne récupérera les échantillons et un avion de chasse les livrera à San Francisco. Les États-Unis ont autorisé la chasse canadienne à traverser leur espace aérien.
La Saskatchewan?
Les capsules Soyouz décollent du cosmodrome de Baïkonour sous une latitude haute. Les sites d'atterrissage les plus sûrs sont sous les mêmes latitudes. La Saskatchewan est la région plane la plus proche de San Francisco. Elle remplit toutes les conditions.
Attendez, protestai-je en levant la main. Les Russes, les Américains et les Canadiens vous obéissent au doigt et à l'œil?
Oui, sans poser de questions.
Vous me charriez.
Apprenez à connaître votre nouveau laboratoire, Dr. Grace. J'ai d'autres problèmes à gérer.
Et elle s'en fut, sans dire un mot de plus.
Yes!
Lançai-je en brandissant le poing. Je bondis sur mes pieds et escalade l'échelle jusqu'au laboratoire. Et puis je grimpe jusqu'à l'écoutille mystère. Comme la première fois, dès que j'attrape la roue, l'ordinateur se réveille.
Pour déverrouiller l'écoutille, déclinez votre identité.
Ryland Grace, réponds-je avec un sourire suffisant. Docteur Ryland Grace.
J'entends un clic au-dessus de moi. Après ma séance de méditation et d'introspection, j'espérais quelque chose de plus spectaculaire. Des confettis, peut-être. J'agrippe la roue et je tourne. Mon domaine est sur le point de s'enrichir d'au moins une pièce. J'essaye de soulever l'écoutille, qui, au contraire de celle qui sépare la chambre du labo, glisse sur le côté. La pièce au-dessus doit être trop exiguë pour permettre de lever une écoutille. Quant à sa nature... L'éclairage à LED s'allume. La salle est ronde, comme les deux autres, mais elle n'est pas cylindrique. Les parois inclinées forment un cône tronqué. Alors que je viens de passer les derniers jours à me poser tout un tas de questions, je me vois assailli de toutes parts par de nouvelles informations. Les surfaces sont couvertes de moniteurs et d'écrans tactiles. Je suis submergé par le nombre de voyants, par la variété de couleurs. Certains moniteurs affichent des rangées de chiffres, d'autres des diagrammes. D'autres encore sont noirs. En bordure de la paroi conique, il y a une autre écoutille. Celle-ci est moins mystérieuse cependant. Le mot « SAS » est imprimé au-dessus et il y a un petit hublot rond sur l'écoutille elle-même. À travers la vitre, je distingue une cabine, tout juste assez grande pour accueillir une personne, et dans celle-ci, une combinaison spatiale. Sur la paroi opposée, il y a une autre écoutille. D'accord, il s'agit bien d'un SAS. Au centre de la pièce trône un fauteuil d'où il est possible d'atteindre tous les moniteurs et écrans tactiles. Je termine de grimper l'échelle et m'installe dans le fauteuil. Il est confortable. On dirait un genre de siège baquet.
« Pilote détecté, » dit l'ordinateur. « Anomalie angulaire. »
« Pilote. D'accord. »«
Où est l'anomalie ?» demandai-je.
« Anomalie angulaire. »
Cet ordinateur n'est décidément pas HAL 9000. Je jette rapidement un coup d'œil aux nombreux écrans à la recherche d'indices. Le fauteuil pivote facilement, ce qui est agréable dans ce poste de travail à 360 degrés. Je repère un écran où clignote une bordure rouge. Je me penche pour l'examiner de plus près. Anomalie angulaire, erreur de mouvement relatif. Vélocité prévue, 11 423 kps. Vélocité mesurée, 11 872 kps. État, trajectoire corrigée automatiquement, aucune action requise.
Bien. Cela ne veut pas dire grand-chose pour moi. À part KPS, kilomètres par seconde.
Au-dessus du texte, il y a une image du soleil. Elle tremblote légèrement sur les pourtours. Peut-être est-ce une vidéo, ou une retransmission en direct? Ou est-ce simplement mon imagination? Sans réfléchir, je pose deux doigts sur l'écran et les écarte. Comme on aurait pu s'y attendre, l'image grossit, comme sur un smartphone. Il y a deux taches solaires sur la gauche de l'image.
Je zoome de nouveau de façon qu'elles emplissent l'écran. L'image est incroyablement nette. Il s'agit soit d'une photo de très haute définition, soit d'un télescope solaire d'une extrême résolution. J'estime que la grappe de tâches occupe environ 1% de la surface du disque. C'est normal pour des tâches solaires. Ce qui signifie que je suis en train d'examiner un demi-degré de la circonférence solaire à la louche. Le Soleil tourne sur lui-même en environ 25 jours. Les profs de sciences savent ce genre de choses. Les tâches devraient mettre une heure à disparaître de l'écran. Je vérifierai plus tard pour voir si c'est le cas. Si oui, j'en conclurai qu'il s'agit d'une retransmission en direct et non d'une photo. 11 872 kps. La vélocité est relative. Elle n'a de sens que si on compare deux objets. Une voiture roulant sur l'autoroute peut se déplacer à 100 km par heure comparée au sol, mais comparée à la voiture qui roule à côté d'elle, sa vitesse est de zéro. À quoi correspond donc cette vélocité mesurée? Je crois le savoir. Je suis à bord d'un vaisseau spatial, non? Si, forcément. Cette valeur est donc ma vélocité. Mais comparée à quoi? À en juger par l'image de notre bon gros soleil au-dessus du texte, je suppose que c'est comparé au soleil. Je me déplace donc à 11 872 kps comparé au soleil. Je crois voir quelque chose clignoter du coin de l'œil. Le texte a-t-il changé? Anomalie angulaire, erreur de mouvement relatif. Vélocité prévue, 11 422 kps. Vélocité mesurée, 11 871 kps. État, trajectoire corrigée automatiquement, aucune action requise. Les chiffres ont changé. Les deux valeurs ont baissé. Oh, attendez. Je sors mon chronomètre de ma toge. Les meilleurs philosophes de la Grèce antique avaient tous un chronomètre dans leur toge. Et puis je fixe le regard sur le moniteur pendant ce qui me semble une éternité. Alors que je suis sur le point d'abandonner, les deux valeurs baissent d'un cran. Et je démarre le chronomètre. Cette fois, je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Encore une fois, cela me semble interminable, mais je tiens bon. Les deux valeurs chutent de nouveau et je stoppe le chronomètre. 70 secondes. La vélocité mesurée baisse donc d'un cran toutes les 70 secondes. Après quelques rapides calculs, j'obtiens une accélération de 15 mètres par seconde carrée. La même que celle de la pesanteur que j'ai calculée plus tôt. La force que je ressens n'est pas de la pesanteur, et elle n'est pas centrifuge. Je suis à bord d'un vaisseau qui accélère en ligne droite. Enfin non, puisque les valeurs diminuent. Et cette vélocité, elle est très grande. Elle diminue certes, mais quand même. Pour atteindre l'orbite terrestre depuis le sol de notre planète, 8 km par seconde suffisent. La mienne est supérieure à 11 000. C'est plus que n'importe quel objet dans le système solaire. En volant à cette vitesse, on finit forcément par échapper à la gravitation du Soleil pour filer dans l'espace interstellaire. Rien sur l'écran n'indique dans quelle direction je vole. Juste une vélocité relative. Ma question est donc, je fonce vers le Soleil ou je m'en éloigne? C'est un problème presque académique. Je suis soit sur une trajectoire de collision avec le Soleil, soit en route vers l'espace profond sans espoir de retour. À moins que je vole dans la direction générale du Soleil, mais que je ne sois pas sur une trajectoire de collision. Dans ce cas, je raterai l'étoile avant de foncer vers l'espace profond sans espoir de retour. Si l'image du Soleil m'est transmise en direct, alors les tâches grossiront sur le moniteur. Il me suffit d'attendre pour en avoir le cœur net. Cela me prendra environ une heure. Je démarre le chronomètre. Je me familiarise avec la multitude d'écrans qui emplit la petite pièce. La plupart ont quelque chose à dire, mais l'un d'entre eux affiche un insigne rond. Il s'agit sans doute d'un écran inutilisé. Si je le touche, l'ordinateur se réveillera. À moins que le moniteur affiche les données les plus importantes de tout ce poste de travail. C'est l'insigne d'une mission. J'ai vu assez de documentaires sur la NASA pour en reconnaître un. Le contour du disque est constitué d'un ruban bleu contenant un texte. Je lis « Dernière chance » en haut, « Terre » en bas. Le nom est le port d'attache du navire. Qu'il vienne de la Terre ne m'étonne pas réellement, mais quand même. Je connais enfin le nom du vaisseau dans lequel je vole. Je suis à bord du « Dernière chance ». En même temps, qu'est-ce que ça peut faire? L'insigne a d'autres choses à m'apprendre. À l'intérieur du ruban bleu, il y a un cercle noir entourant des symboles bizarres. Un rond jaune avec un point au milieu, un bleu avec une croix blanche, un plus petit et jaune avec un T minuscule. Aucune idée de leur signification. Tout autour de la zone noire, je lis un mot écrit en chinois, un autre en russe, et Grace. L'équipage. Je suis Grace. Donc les deux autres doivent être les momies étendues en bas. Une personne russe et une autre chinoise. Elles me semblent vaguement familières, mais leurs souvenirs ne percent pas tout à fait la surface de ma conscience. Probablement à cause d'un mécanisme de défense interne. Mon cerveau refuse que je me rappelle parce que cela va faire mal. Enfin peut-être. Je n'en sais rien. Je suis professeur de sciences, pas psychologue spécialiste en traumatisme psychique. Je m'essuie les yeux. Pour le moment, je vais m'abstenir de chercher à me rappeler. J'ai une heure à tuer. Je vais laisser mon esprit errer et peut-être se souvenir d'autre chose. C'est de plus en plus facile.
Je ne suis pas super à l'aise avec tout ça, dis-je.
Ma voix était étouffée par ma combinaison asthmate. Il y avait de la brume sur le vinyle de ma visière.
Vous vous en sortirez très bien,
me répondit Strad via l'intercom. Elle m'observait de derrière un double vitrage très épais. Ils avaient apporté quelques améliorations au laboratoire. Oh, l'équipement était exactement le même, mais la pièce était désormais complètement étanche à l'air. Les murs étaient tapissés de feuilles de plastique épaisses collées avec un ruban adhésif spécial. Il y avait des logos CDC partout, des protocoles de quarantaine. Bref, ce n'était pas très rassurant. Pour entrer, il fallait traverser un gros sas en plastique. Et on m'avait même obligé à enfiler cette combinaison hazmat avant de l'emprunter. Un tuyau relié au plafond m'alimentait en air. L'équipement dernier cri n'attendait plus que moi. Jamais je n'avais vu un labo aussi bien doté. Au milieu, sur une desserte à roulettes, trônait une cuve cylindrique. Au pochoir, on n'y avait pas un mot en langue étrangère, qui ne m'était pas d'une grande utilité. Strat n'était pas seul dans la salle d'observation. Une vingtaine de personnes en uniforme militaire s'y pressaient, qui m'observaient avec le plus grand intérêt. Il y avait quelques Américains, des Russes, des Chinois, plus des uniformes variés que je ne reconnus pas. Le monde entier était représenté. Personne ne disait rien, mais tous s'étaient spontanément mis d'accord pour rester un bon mètre derrière Strat. J'attrapais mon alimentation en air et la désignais en me tournant vers la femme. « Est-ce bien nécessaire ?»«
Il y a de grandes chances que l'échantillon contenu dans ce cylindre soit une forme de vie extraterrestre, »
répondit-elle en appuyant sur le bouton de l'intercom.
« Pas question de prendre le moindre risque. »«
Vous ne prenez pas le moindre risque, c'est clair. Mais moi, si. »
« Ce n'est pas le problème. »«
Comment ça, ce n'est pas le problème ?»«
Bon, d'accord, c'est le problème. »
acquiesça-t-elle après une brève pause.
« Tout le monde a dû prendre les mêmes précautions ?» manquis-je en avançant vers le cylindre.
Elle se tourna vers les officiers qui se contentèrent de hausser les épaules.
« Que voulez-vous dire par « tout le monde » ?»«
Eh bien, je veux dire les gens qui ont transféré l'échantillon dans cette cuve. »
La cuve provient directement de la capsule. La couche extérieure est constituée de 3 cm de plomb et elle entoure 1 cm d'acier. La boîte est scellée depuis Vénus. Il y a 14 verrous à ouvrir avant d'accéder aux échantillons.
Je regardais successivement la cuve et Strat. Plusieurs fois.
C'est n'importe quoi.
Voyez le bon côté des choses. Vous entrerez dans l'histoire comme le premier homme à avoir établi un contact avec une forme de vie extraterrestre.
Forme de vie, ça reste à prouver,
marmonnai-je. J'ouvris les 14 verrous avec quelques difficultés. Ils étaient serrés, les bougres. Je me demandais vaguement comment la sonde s'y était prise pour les fermer. Grâce à des systèmes automatisés super cool, sans doute. L'intérieur n'était pas très impressionnant, mais je ne m'attendais pas à autre chose. J'avisais une boule en plastique transparent apparemment vide. Les mystérieux points étaient microscopiques et peu nombreux.
« Pas de radiation détectée »,
annonça Strad via l'intercom. Je me tournai brusquement vers elle. Elle ne lâchait pas sa tablette des yeux. J'examinai longuement la boule. « Il y a du vide à l'intérieur ?» manquis-je.
« Non, elle est pleine d'argon. La pression est d'une atmosphère. Les points n'ont jamais cessé de bouger depuis Vénus. L'argon ne semble pas les affecter. »
« Je ne vois pas de boîte à gants, » me plaignis-je en embrassant le laboratoire du regard. « Je ne peux tout de même pas exposer des échantillons inconnus à l'air. »
« La pièce tout entière est emplie d'argon. Évitez surtout de pincer votre arrivée d'air ou de déchirer votre combinaison. Si vous respirez de l'argon... »
« Je suffoquerai sans même m'en rendre compte, je sais. » Je saisis la boule et la posai sur un plateau où je dévissai les deux moitiés. J'en plaçai une dans une boîte en plastique scellée, passai un bâtonnet ouaté dans la seconde avant de l'appliquer sur une lame de verre destinée au microscope. Je m'attendais à ce qu'ils soient difficiles à trouver, mais non. Ils étaient bien là. Des dizaines de petits points noirs, qui s'agitaient effectivement.
« Vous enregistrez tout ça ?»«
Sous 36 angles différents, »
confirma-t-elle. L'échantillon consiste en de nombreux objets ronds. Très peu de différence de taille. Il semble avoir un diamètre d'environ 10 microns. J'ajustais la focale et testais diverses intensités de rétroéclairage. Les échantillons sont opaques. Je n'en vois pas à l'intérieur, même avec un éclairage maximal.
Sont-ils vivants ?
Demanda Strat.
Impossible de répondre après un examen si bref, rétorquai-je en lui lançant un regard noir.
Vous vous attendiez à quoi ?
Je veux que vous déterminiez s'ils sont vivants, et si oui, comment ils fonctionnent.
Ce ne sera pas une mince affaire.
Pourquoi ? Les biologistes ont bien compris comment fonctionnent les bactéries. Appliquer la même méthode avec ces choses ?
Des milliers de scientifiques ont travaillé pendant 2 siècles pour parvenir à ce résultat.
« Eh bien, tâchez d'être plus rapide. »«
Vous savez quoi ?» repris-je en pointant le microscope du doigt. « Je vais me remettre au boulot. Je vous informerai de mes découvertes au fur et à mesure. En attendant, j'aimerais un peu de silence. » Je passai les 6 heures suivantes à effectuer des tests incrémentaux. Le public de militaires finit par se lasser et Strat se retrouva bientôt seul. Je ne pouvais qu'admirer sa patience. Assise dans le fond de la salle d'observation, elle travaillait sur sa tablette en levant occasionnellement la tête vers moi. Elle s'anima lorsqu'elle me vit passer le sas pour la rejoindre dans la salle d'observation.
« Vous avez quelque chose ?»«
Ouais, la vessie pleine, » répondis-je en ouvrant la glissière de ma combinaison.
« Je n'avais pas pensé à ça, »
me concéda-t-elle en tapotant quelque chose sur sa tablette.
« Je ferai installer une salle d'eau dans la zone de quarantaine ce soir. Avec des toilettes chimiques, forcément. Pas question d'avoir de la tuyauterie dans tous les sens. »«
C'est vous qui voyez, » dis-je en m'en allant faire ce que j'avais à faire.
À mon retour, Strat avait installé une petite table et 2 chaises au centre de la salle d'observation. Elle s'assit et me fit signe de l'imiter.
« Prenez place, je vous prie. »
J'étais en plein milieu d'une...
« Asseyez-vous. »
J'obtempérai. Elle avait une certaine autorité naturelle. Peut-être était-ce sa voix ou sa confiance en elle. Dans tous les cas, lorsqu'elle parlait, on savait qu'il fallait l'écouter.
Qu'avez-vous découvert jusque-là ?
Cela ne fait qu'un après-midi.
Je ne vous demande pas depuis combien de temps vous travaillez, mais ce que vous avez découvert.
Je me grattais la tête. Après des heures passées dans ma combinaison, j'étais transpirant et je puais probablement. C'est bizarre. J'ignore de quoi sont faits ces points noirs, mais j'aimerais bien le savoir.
Avez-vous besoin d'équipements auxquels nous n'aurions pas pensé ?
Non, non. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. C'est juste que... notre matériel ne fonctionne pas sur ces points noirs.
je m'adossai à ma chaise. J'étais resté debout toute la journée et goûtais avec plaisir ce moment de détente. J'ai commencé avec le spectromètre à rayons X. Il envoie des rayons X sur un échantillon, le faisant émettre des photons. La longueur d'onde des photons permet de déterminer la nature des éléments présents.
Et qu'avez-vous appris ?
Rien. Apparemment, les points absorbent simplement les rayons X. Ces derniers les pénètrent et n'en sortent pas. Rien n'en sort d'ailleurs. C'est bizarre. Je ne vois rien d'autre qui réagisse de cette manière.
D'accord.
Elle prit des notes sur sa tablette.
Que pouvez-vous me dire d'autre ?
Après, j'ai essayé la chromatographie en phase gazeuse. On vaporise l'échantillon, puis on identifie les éléments ou composés dans le gaz produit. Ça n'a pas fonctionné non plus.
Pourquoi ?
Parce que cette chose refuse d'être vaporisée, expliquai-je en écartant les bras. J'ai insisté. Brûleur, four à creuset, rien. Des températures de 2000 degrés n'affectent aucunement les points noirs.
Et c'est bizarre ?
Carrément. Mais ces choses vivent sur le soleil. Pendant un certain temps, en tout cas. Il n'est pas étonnant qu'elles résistent aux très hautes températures.
Elles vivent sur le soleil ? Il s'agit donc bien d'une forme de vie.
J'en suis presque sûr.
Je vous écoute.
Il se déplace. On le voit bien au microscope. En soi, ça ne prouve rien. Des trucs inertes bougent tout le temps à cause de charges statiques, de champs magnétiques ou autres. Mais j'ai remarqué un détail. Un truc étrange qui m'a permis de comprendre certaines choses.
Mais encore ?
J'ai mis quelques points dans le vide, puis j'ai passé le tout au spectrographe. Histoire de voir s'ils émettent de la lumière. C'est bien le cas. Ils émettent des infrarouges dont la longueur d'onde est de 25 884 microns. C'est la fréquence de Petrova. La lumière dont est constituée la ligne de Petrova. Je m'y attendais. Et puis, j'ai remarqué qu'ils n'émettent ces infrarouges que lorsqu'ils bougent. Mais ils en émettent un paquet, je peux vous le dire. Enfin, pas vraiment de notre point de vue. Mais pour un organisme unicellulaire, c'est énorme.
En quoi cela nous intéresse-t-il ?
J'ai fait quelques calculs sur un coin de table, et je suis convaincu qu'il bouge grâce à la lumière.
Je ne vous suis pas,
protesta-t-elle en haussant un sourcil. Croyez-le ou non, mais la lumière produit une poussée. Elle exerce une force. Si vous êtes dans l'espace et que vous allumiez une lampe torche, vous obtenez une minuscule poussée.
Je l'ignorais.
Maintenant, vous le savez. Une minuscule poussée sur une minuscule masse peut signifier un mode de propulsion efficace. J'ai mesuré que la masse moyenne des points noirs est de 20 picogrammes. Cela m'a pris pas mal de temps d'ailleurs, mais ce labo est super bien équipé. Bref, le mouvement observé est en relation avec la lumière émise. Elle posa sa tablette. J'avais apparemment réalisé l'exploit d'attirer toute son attention.
Cela se produit-il dans la nature ?
Jamais, répondis-je en secouant la tête. Rien dans la nature ne stocke l'énergie de cette manière. Vous ne comprenez pas combien d'énergie ces points émettent. La conversion de la masse est, vous savez, E égale MC2. Ces tout petits points noirs stockent une quantité phénoménale d'énergie.
Il faut dire qu'ils viennent du Soleil, et que le Soleil perd beaucoup d'énergie.
C'est la raison pour laquelle je pense à une forme de vie. Les points consomment de l'énergie, la stockent d'une manière que je ne comprends pas, puis l'utilisent pour se propulser. Ce n'est pas un simple processus physique ou chimique, il est complexe et dirigé, le fruit d'une évolution.
Donc la ligne de Petrova est constituée d'une multitude de petites traînées de fusées ?
Sans doute. Et je parie que nous ne voyons qu'une faible fraction de la lumière émise dans la zone. Ils s'en servent pour se propulser vers Vénus ou vers le Soleil, ou les deux, je ne sais pas. Logiquement, la lumière doit être émise dans la direction opposée de leur vol. La Terre n'étant pas sur cette trajectoire, nous ne voyons que la lumière réfléchie par la poussière spatiale environnante.
Pourquoi vont-ils sur Vénus ?
Sans qu'ils stratent.
Et comment se reproduisent-ils ?
Bonne question. Je n'ai pas les réponses, malheureusement. S'il s'agit d'organismes monocellulaires réagissant à des stimuli, Ils se reproduisent sans doute par mitose. Je fis une pause. C'est quand une cellule se sépare pour former deux cellules.
Oui, je connais, merci.
M'interrompit-elle en levant les yeux au plafond.
Les gens ont toujours cru que les extraterrestres, si nous devions en rencontrer, ressembleraient à deux petits hommes verts voyageant dans des soucoupes volantes. L'idée d'espèces non intelligentes ne nous a pas effleuré l'esprit.
C'est clair. Pas question de Vulcain passant nous dire bonjour, mais d'algues spatiales.
Une espèce invasive, comme le crapaud buffle australien.
Bonne analogie, acquiesçai-je en hochant la tête. Et la population grandit. Vite. Plus ils sont nombreux, plus ils consomment d'énergie solaire.
Comment appellerait-on une espèce dont le régime alimentaire serait constitué d'étoiles ?
Demanda-t-elle en se pinçant le menton. Il me fallut quelques secondes pour me rappeler mes racines grecques et latines. Je crois qu'on la qualifierait d'astrophage.
Astrophage ?
Répéta-t-elle en pianotant sur sa tablette.
D'accord. Au boulot. Essayez de découvrir comment ils se reproduisent.
Astrophage. Le simple souvenir de ce mot fait se contracter tous mes muscles. Une terreur glacée s'empare de moi, me frappe comme un poids en plomb. Voilà comment s'appelle la chose qui menace la vie sur Terre. L'astrophage. Je me tourne vers le moniteur affichant une image grossie du Soleil. Les taches solaires ont clairement bougé. Il s'agit donc d'une image vidéo. C'est bon à savoir. Attendez, j'ai l'impression qu'elle ne se déplace pas à la bonne vitesse. Je vérifie le chronomètre. Mon esprit n'a vagabondé que pendant 10 minutes. Les taches n'auraient dû bouger que d'une fraction de degré, mais elles ont traversé la moitié de l'écran. C'est beaucoup plus que prévu. Je sors le mètre ruban de ma toge. Je recule le point de vue pour mesurer le diamètre du soleil, puis la grappe de taches solaires. Plus question de vulgaires estimations. Il me faut des calculs fiables. Le disque solaire mesure 27 cm sur l'écran et les taches solaires 3 mm. Celles-ci parcourent la moitié de leur largeur, 1,5 mm, en 10 minutes. En 517 secondes, plus précisément à en croire mon chronomètre. Je griffonne quelques calculs sur mon bras. À cette résolution, elle se déplace d'un millimètre toutes les 344,66 secondes. Pour parcourir les 27 centimètres, il leur faudrait... Je griffonne... Un tout petit peu plus de 93 000 secondes. Il faudra donc aux taches tout ce temps pour se retrouver de l'autre côté. Et deux fois plus longtemps pour faire un tour complet. Donc 186 000 secondes, soit un peu plus de 2 jours. Plus de 10 fois le temps de rotation normale. L'étoile que je suis en train de contempler n'est pas le Soleil. Je suis dans un autre système solaire.